Ce que je vous propose, l'idée de cette première table ronde, c'est de revenir sur l'expérience de l'année passée. Et on va avoir deux retours d'expérience, un par vidéo, avec Karim Ajar, qui est le CFO de Solvay, qui n'a pas pu être présent. Donc on va commencer par regarder sa vidéo. Et puis ensuite, on aura un témoignage live de Christopher Guérin sur Nexans, avec quelques petites questions que je poserai, mais après la vidéo.
Solvay had the privilege of receiving the award for integrated thinking in 2018. Receiving such a prestigious recognition was something that we did not covet per se, but nevertheless the prize was really appreciated because it recognized the efforts of many in our teams over the years. Being a member of the jury was both interesting and challenging because the very different cases we looked at were each very compelling in their own right. Making decisions to differentiate one from the other is really not easy. I would not have known how to do that by myself because the differences are very, very difficult to discern. What helped the process is the insistence on method, on rigorous fact-based analysis. And that was the foundation for our discussions, yet without being rigid, without being theoretical either. And this is because the dialogue also necessarily involved and integrated elements of judgment into certain subjective matters to go beyond the published, beyond the written words, and even beyond the compelling oral presentations. In such matters, the panel benefited from diverse and yet complementary perspectives, and we built on one another's views as we exchanged. To that extent, I learned, and I wish to thank my fellow panelists for the experience.
Donc un premier témoignage, on peut enchaîner avec Christopher Guérin sur Nexans, avec peut-être une première question sur ce que vous a appris cette démarche de pensée intégrée, et puis ensuite on ira un peu plus dans le détail.
Merci Nicolas. Bon, juste un petit mot sur Nexans, on est l'un des leaders mondiaux en câble électrique. On est très engagé dans la transition énergétique, je vous en dirai deux mots un peu plus tard. On fait également tout ce qui est câble fibre optique pour la gestion des données. On a la chance d'être au cœur de tous les enjeux sociétaux, puisqu'on couvre 38 secteurs d'activité à travers le monde. Et comme le monde devient de plus en plus électrique, hein, une consommation électrique qui augmente tous les ans, bon, il y a un besoin de câbles récurrent. Donc moi, je suis le CEO depuis 18 mois, je suis dans la société depuis un certain nombre d'années. On était très fiers de recevoir ce prix l'année dernière. Merci encore au jury. Pour nous, il y a différents types de prix. Il y a le prix parce qu'on a atteint un but, on a réalisé quelque chose, et puis il y a le prix de l'intention. Et je pense que pour nous aujourd'hui, sur un capitalisme responsable, on a démarré des choses. On connaît le point de départ, mais on ne connaît pas encore le point d'arrivée parce que c'est un sujet continu. Ce qui nous avait beaucoup challengé, nous, l'année dernière, c'était on avait fait un travail avec Emmanuel Duez et Boson Project. On avait interviewé tous nos jeunes à travers le monde, en plus de 80 entretiens, et qui nous avons beaucoup secoués. J'imagine que je serai certainement secoué par mes deux voisins, par leurs questions, puisque c'est certainement la plus jeune génération qui nous challenge le plus sur ces sujets-là. Qu'est-ce qui était ressorti de ces entretiens? Déjà un paradigme complètement différent des générations actuelles de notre entreprise. On a une moyenne d'âge de 48 ans. Il y avait trois mots qui ressortaient de ces entretiens. C'est la recherche de sens. Le feedback de nos jeunes, c'était Nexans à une hypertrophie du présent. Vous nous parlez de l'année dernière, vous nous parlez de cette année, vous nous parlez de l'année prochaine. On ne connaît pas les racines de Nexans. Pourtant, un groupe issu du groupe Alcatel et du groupe CGE, donc on est au sein du MEDEF, hein, le groupe CGE, c'est un groupe de 250 000 personnes, et aujourd'hui, il ne reste que Alstom Ferroviaire et que Nexans sous pavillon français. Donc c'est quand même un groupe qui était magnifique, mais qui a été entièrement démantelé, mais qui a des racines de 1848. Hein, les premières usines de câbles ont été montées en 1848. Donc on dit, vous nous parlez pas de nos racines, mais vous nous parlez pas de l'avenir non plus. Donc ça a été un gros challenge sur lequel on travaille. Donc voilà, essayer de projeter le groupe à 10 ans et de regarder ce que le groupe apporte en termes de sens par rapport à la problématique de la planète. Donc une recherche de sens, une recherche de collectif. C'est-à-dire qu'on a vu surtout une grande différence, c'est qu'ils ont beaucoup moins d'individualisme, ils veulent vraiment travailler en équipe. Ils ne veulent plus entendre le mot fonction, ils veulent entendre le mot mission, mission avec un petit thème et avec un grand thème, une vraie raison d'être de société, une vraie mission collective. Ils disent, moi, je veux faire partie d'une équipe. Ne me posez plus, cher RH, cette question, qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans ? Moi, c'est qu'est-ce que je veux faire pour la planète au sein de l'entreprise. Et puis du fun, voilà. Donc ça, les jeunes nous ont énormément challengés. Et puis après, quand j'ai regardé, parce que je suis en poste depuis 18 mois, donc je n'aurai pas la réponse à toutes vos questions, mais moi, ce qui m'intrigue particulièrement, c'est le découpage des fonctions au sein de l'entreprise. On est quand même sur des modèles qui sont basés sur ce que nous avons construit dans les années 90 et début 2000. Je pense que les années 2000 ont énormément fait de mal aux entreprises parce qu'on a siloté les fonctions. On a perdu une vision holistique, sociale, sociétale, et financière de l'entreprise. Et je pense qu'on est en train de ramer par rapport à ça et on essaie de retrouver un sens commun à cet ensemble. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Bon, bien sûr, moi, quand je vais aux conférences de Goldman Sachs et JP Morgan, on ne pose aucune question sur la RSE. On pose des questions vraiment sur mon axe de profitabilité, mon engagement financier dans les 3 ans. Quand je vais au congrès RH, on ne pose pas de questions sur la RSE particulièrement. On pose des questions sur l'engagement. Et en fait, c'est un peu symptomatique de ce qui se passe dans les entreprises. C'est ce que j'appelle les 3 P, Profit, People, Planet. Le problème, c'est que les 3 P sont gérés comme des corridors de nage, sans aucune interaction. Donc on a une logique de profit, on travaille la profitabilité de l'entreprise, parfois une vision obligatoirement, dans une entreprise cotée comme la nôtre, une vision un peu court-termiste, où on publie tous les trimestres. Il y a bien des travaux qui sont faits sur l'engagement, sur le people, ça c'est évident. Et également, bien sûr, un gros travail sur la RSE. Mais à la réponse, est-ce que tout ça est systémique ? Et est-ce qu'en tant que dirigeant, on s'assure que les 3 P sont regardés au quotidien, ou au moins mensuellement ? La réponse est non. Et je serai certainement pas arrogant en disant que Nexans a trouvé la solution. Je pense que c'est l'équation qui est à résoudre. On a fait pas mal de comités auprès de nos dirigeants. On s'est dit, bah, écoutez, nous, on a créé un système d'émulation cette année parce que l'entreprise était en grande difficulté financière en 2018 quand je l'ai repris. Un double profit warning, un cours de bourse qui a chuté de 40% en moins de 6 mois. Donc, bien sûr, le premier réflexe du CEO, c'est de dire, bon, bah, la problématique numéro 1, c'est le profit. Et au bout du 6e mois, donc on avait créé ce billboard d'émulation où tous les mois, on publie un award des meilleurs résultats financiers par unité, par activité à travers le monde. Ça crée une très très bonne émulation. Et là, on est en train de passer en V2 de cette émulation. On dit, ben voilà, en 2020, ça va changer. On vous a challengé sur l'axe profit. Vous l'avez très très bien, très, très bien relevé. Nexans a remonté la pente. Le cours de bourse est remonté à 50%. On a pris énormément de contrats. On s'est donné un peu d'oxygène. Mais à partir de janvier, on vient de mettre un nouveau système en place. On dit on va rajouter les 2 autres P. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de reconnaissance, il n'y aura pas de award s'il n'y a pas un travail sur l'engagement de vos employés. Et dans l'engagement, c'est-à-dire qu'on va mesurer le taux d'absentéisme, hein, parce que le rejet de l'entreprise aujourd'hui, il y a très très peu de phénomènes de grève, mis à part dans la fonction publique, dans les entreprises privées. Il y a de moins en moins de grèves. Par contre, le taux d'absentéisme monte. Donc le rejet de l'entreprise se voit à travers le taux d'absentéisme. Nous, on a réussi à codifier le pourquoi les taux d'absentéisme dans une entreprise, dans une de nos usines, est à 2%, et dans une autre, il peut être à 12 ou à 14%. Et on est rentré dans ce cœur de sujet, je ne vais pas le développer, mais on sait qu'il y a un bon management et un mauvais management. Donc le taux d'absentéisme, tous les processus d'engagement, les journées familles qui seront engagées par les entreprises, les usines de Nexans, les journées clients seront des bonus à la partie people, et toute la partie normes environnementales, gestion, recyclage des déchets, économie circulaire, tout le travail qui sera fait sur les thèmes de la RSE sera le 3e award du planète. Mais il n'y aura plus de reconnaissance au niveau de Nexans s'il n'y a pas un juste équilibre entre les 3 P.
Et juste avant de passer la parole à Margot et Benoît, si vous deviez donner un exemple de changement de business model lié à cette articulation peut-être plus forte entre les différentes variables.
Très simple, on vient d'arrêter 3 usines qui étaient très fortement ancré dans le marché du pétrole. Et on vient entièrement de basculer avec plus de 100 millions d'euros d'investissement. On vient de basculer ces usines pour vraiment aller fournir les câbles pour les éoliennes offshore aux États-Unis et en Europe. Je vous laisse regarder l'actualité de Nexans dans les prochaines semaines. Vous allez voir qu'on a concrètement, on a gagné des milliards d'euros en termes de business sur les éoliens offshore. On a fait une très forte migration de valeur. Donc la part de l'oil and gas chez Nexans est en train de chuter très très fortement. Par contre, la part de la transition énergétique va faire un bond l'année prochaine de plus 45%.
D'accord. Alors, l'un des objectifs du prix, c'est aussi de diffuser les idées. Donc, comme l'a évoqué Caroline, il y a notamment un partenariat avec l'X, mais aussi avec d'autres institutions pour valoriser les gagnants. Donc, on vous proposera éventuellement de participer à des cas. Mais on va rentrer dans le vif du sujet avec les étudiants. Donc, on a deux étudiants qui ont été assez engagés sur ce qu'on a appelé le manifeste, notamment. Donc, je vais leur laisser du temps pour expliquer ce qu'a été le manifeste, puisqu'on est aussi un an après, hein, déjà, quasiment, ouais, et avec une V2 qui vient de sortir. Donc, expliquez-nous ce qu'est le manifeste, et puis après, on peut voir comment concrètement pourraient s'appliquer les suggestions du manifeste au cas de Christopher, comme il est là et qu'on le tient, on va pouvoir lui poser des questions précises. Voilà, donc je laisse Margot et Benoît.
Ça marche. Bonjour. Selon le dernier rapport du GIEC et de l'IPBES, si nous poursuivons sur la trajectoire économique et sociétale actuelle, nous aurons d'ici la fin du siècle 280 millions de réfugiés climatiques. Et l'avenir de la biodiversité est extrêmement menacé, surtout celui des 25% d'espèces qui sont déjà aujourd'hui menacées d'extinction. En 2050, nous pourrions avoir, toujours selon ce scénario business as usual, des pics de chaleur de plus de 55 degrés dans le nord de la France. Sauf que 2050, pour nous, étudiants et jeunes diplômés, c'est demain. Nous aurons à peu près votre âge.
Ça démarre fort. Hein.
Et face à cette date limite, ce qui nous alarme, c'est que ça fait des années, et même des dizaines d'années, que nous entendons ces chiffres plus qu'inquiétants, et que malgré les belles paroles et les sommets en tout genre, la trajectoire n'a pas changé. C'est pourquoi, face à ces constats et face à l'inertie du monde économique, nous nous sommes exprimés dans le manifeste pour un réveil écologique qui a été signé par 30 000 étudiants en France depuis septembre 2018. Dans ce manifeste, nous affirmons pas seulement une quête de sens vague, mais un engagement concret. Si, dans notre vie personnelle, nous sommes prêts à faire tout ce qui est possible pour enrayer la crise écologique, c'est surtout dans notre carrière que nous voulons agir pour construire un monde vivable. C'est pourquoi, face à l'enjeu, nous nous engageons à ne pas travailler pour des entreprises qui ne mettent pas les enjeux environnementaux au cœur de leur stratégie. Aujourd'hui, un an après, le manifeste est passé à la deuxième étape, et je vais laisser Benoît vous l'expliquer.
Voilà, donc suite à ce texte et les 30 000 signatures récoltées, on a essayé de concrétiser cet engagement. On s'est basé pour ça sur deux piliers. Le premier, c'est qu'on dit que dans notre métier, dans notre travail, on veut œuvrer pour un monde plus résilient. Mais pour ça, on a besoin d'être formé. C'est-à-dire que la question des enjeux environnementaux est complexe et très souvent mal compris. Et ce qu'on veut, c'est que ce qui est nécessaire, c'est que tout le monde puisse traiter ces sujets, pas seulement une poignée d'étudiants qu'ils choisissent. Et donc, on a engagé un dialogue avec des administrations de nos écoles. On a des ambassadeurs dans plus d'une centaine d'écoles qui vont voir leur administration et qui leur disent « Nous voulons des cours dans le tronc commun pour que tout le monde sache de quoi on parle quand on parle de changement climatique, par exemple, ou de finitude des ressources. » Le deuxième axe qu'on a mis en œuvre, c'est d'engager un dialogue avec les entreprises. On a été leur rappeler le message de notre manifeste, c'est-à-dire que si elles ne considèrent pas les sujets environnementaux et sociaux comme une priorité, elles ne pourront plus recruter. Et donc, à la suite de nombreuses rencontres qu'on a effectuées, on a décidé d'élaborer une grille de lecture pour évaluer la crédibilité des entreprises sur ces sujets. Elle est en ligne sur notre site depuis mardi. Et depuis mardi, il y a aussi entre 2 et 3 000 étudiants qui ont publié sur LinkedIn leur appel pour un réveil écologique qui s'adresse sur ce réseau social qui est le préféré des employeurs en leur disant, en leur rappelant leur message, en leur donnant certaines conditions qui sont importantes à leurs yeux pour qu'on aille travailler chez eux. On a aussi envoyé ces questions à plus de 100 groupes. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de réponses sur notre site qui est pourunrivaleécologique.org. Et on a accompagné ces réponses d'un guide d'anti-greenwashing parce qu'on le remarque dans nos discussions. Encore bien souvent, les sujets environnementaux sont traités par les départements RSE. Donc c'est des démarches à la marge qui ne touchent pas le cœur de la stratégie. Et les entreprises peinent à engager les transformations profondes qui sont nécessaires. Donc je pense qu'on va pouvoir parler de ces questions avec Christophe Lyon.
Excellent. Juste un point, je voudrais vraiment insister sur le côté très concret de la démarche. Je vous invite à aller... Il y a eu beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là, dans le monde étudiant et en dehors du monde étudiant. Ce qui est vraiment intéressant dans la démarche du manifeste, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exemples très concrets, de suggestions pratiques, de maintenant on passe à un modèle plus guide, donc qui est encore plus opérationnel. Donc si vous n'avez pas eu le temps de, ou si vous n'avez pas vu passer l'information sur le manifeste, ça vaut le coup d'aller sur le site et de lire ce qui est proposé, parce qu'il y a des idées, que vous soyez d'accord ou pas d'ailleurs, il y a vraiment des idées qui méritent d'être connues et d'être réfléchies. Alors si on applique ça concrètement en Excence, puisqu'on a, on a un cas très intéressant d'entreprise industrielle, quelles seraient les questions ou les remarques que vous pourriez faire sur...
Alors le premier point qu'on regarde, ce qui nous paraît essentiel, c'est de regarder d'abord la finalité et l'utilité du produit et du service rendu. Et il faut, ce qu'on demande, c'est de remettre en cause cette finalité, cette utilité, dans le contexte de la crise environnementale en cours. Donc pour Nexence, qui contribue à la transition énergétique, c'est très bien. On a quand même quelques questions. Par exemple, dans votre rapport intégré, on a vu que vous voulez contribuer à des villes connectées, au déploiement de la 5G, par exemple. Aujourd'hui, le traitement des données et le stockage des données, c'est à peu près 1% des émissions de gaz à effet de serre mondial, donc à peu près autant que la France, en très forte croissance, un des secteurs qui croît le plus. Le déploiement de la 5G, c'est 7 fois plus de données échangées. Les villes connectées, c'est pareil, ça veut dire toujours plus de données. Est-ce que c'est vraiment dans cette trajectoire qu'on veut aller pour aller vers un monde plus résilient? Est-ce que c'est en faisant de l'efficacité qu'on va y arriver, ou est-ce que vous êtes prêt à engager une démarche de sobriété et dire non à certains projets qui ne vont pas dans le bon sens?
Merci pour la question. Alors, je vais juste, je ne veux pas rentrer dans le domaine de la 5G particulièrement, mais je vais rentrer sur le domaine de la sobriété parce que j'étais à New York, j'ai vu des investisseurs américains, des très très gros fonds américains, qui m'ont challengé parce que dans le cadre de notre démarche de plan à 3 ans, on n'a pas mis d'indicateurs de croissance. Voilà, donc on est très très challengé sur la notion de croissance. C'est volontaire, on met bien des... Sur le côté investisseur, on met bien une logique de croissance de nos profits, d'amélioration de nos retours sur capitaux employés. Mais je dis, je ne mettrai pas de croissance organique parce que je suis très proche de cœur de Pierre Rabhi, et cette notion de sobriété, j'essaye de l'inculquer au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que, bien sûr, je veux de la croissance de chiffre d'affaires, mais j'ai dit maintenant, chers collègues, on ne va plus parler en croissance volumique, on ne va plus croissance en tonnes de production. Mais on va parler de croissance par la valeur. C'est-à-dire que si j'ai 3 à 5% de croissance organique, je veux que ça soit 3 à 5% par la valeur du prix ou des services vendus, et non pas par les kilomètres et les tonnes produits qui consomment de plus en plus d'énergie. Donc cette notion de sobriété, on essaye de la faire passer. Parce qu'en effet, c'est sur le domaine du câble, avec la modernisation du monde, avec le phénomène d'urbanisation, vous allez avoir d'ici 2030 deux tiers de la population mondiale qui va vivre dans des villes qui seront hyper connectées, qui demanderont plus de câbles. Je n'ai pas de problème, notre marché n'a pas de problème de croissance volumique parce qu'elle sera là. Donc la logique, c'est de la sobriété. Et c'est un vrai problème dans l'éducation de nos managers, parce que les 15 dernières années, c'était globalisation et croissance volumique. Donc on leur dit maintenant... on va vous demander de vous travailler. Je vous donne un exemple concret. On a sorti en un an 35% de notre clientèle. C'est très contre-intuitif de dire je vais travailler avec 35% de clients en moins. Parce que l'objectif est de travailler avec moins de clients, mais plus intelligemment. Donc on retient des clients qui sont beaucoup plus écosystémiques dans la démarche, je veux dire. Réduisons un peu la consommation globale et allons au plus juste, parce qu'il y a du stock partout, il y a de la perte partout, il y a des déchets partout. On a mis quelques, On a mis des puces RFID, donc des éléments d'Internet des objets sur nos produits pour les géolocaliser, pour récupérer des produits qui sont obsolètes et qui sont parfois laissés dans la nature. Et donc, on a des collectes de camions. Donc, on essaye de faire moins de produits en kilomètres de production. On sert moins de clients, mais on va essayer de travailler un peu plus la sobriété intelligente.
Mais sur ce sujet, souvent, quand on parle de pression environnementale, l'objection qui arrive tout de suite, c'est oui, mais en fait, vous êtes pour la décroissance, et la décroissance, c'est irréaliste, ça ne marche pas. Donc, en fait, vous faites vraiment la part des choses entre sobriété et décroissance.
Oui, parce que je parle vraiment de décroissance volumique.
Volumique,
mais pas par la valeur. Donc, vous pouvez toujours faire de la croissance par la valeur, parce que si vous faites plus de services, si vous commencez à rentrer à ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas vendre un pur composant, mais travailler un système et un sous-système qui est plus intelligent et qui consomme moins d'énergie, vous le vendrez plus cher. Donc, ça sera de la valeur.
Ça reste
donc de la croissance.
Benoît, Margot.
Mais est-ce que vous pensez vraiment que parier sur des technologies comme la 5G qui, certes, vont être plus performantes, mais permettent de faire passer plus de données et donc consomment au final tout de même 5 fois plus d'énergie, est-ce que vous pensez que c'est quand même compatible avec des exigences de recherche de sobriété ?
Alors, nous sommes fournisseurs. La question, c'est pourquoi le monde demande plus de bandes passantes ? Le sujet, c'est pas la 5G, c'est pourquoi tout le monde veut toujours plus ? Pourquoi il y a tel engouement pour les nouveaux téléphones ? Je vais essayer d'être un peu plus authentique parce que votre sujet, c'est pas de greenwashing. Je sors de ma retraite annuelle, donc je fais une retraite annuelle. On a avec 8 dirigeants, 10 dirigeants. Il y a 2 ans, on était avec Mathieu Ricard, moine bouddhiste, qui nous a extrêmement challengé sur quelle empreinte sociétale vous laisserez en tant que dirigeant dans les 10 prochaines années. Et là, on sort. La semaine dernière, on était dans un monastère au-dessus de Chambéry. On était avec Cyril Dion. Alors Cyril Dion, c'est le réalisateur du film Demain. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Il est en train de faire son nouveau film. Et Cyril nous a dit, on va passer 4 jours ensemble. Et je ne réponds pas directement à votre question, Margot, mais pour vous donner un peu la difficulté et ce qu'on essaye de faire, il dit, vous êtes trop entraîné à répondre à ces questions-là. Je pourrais vous répondre une réponse très, très standardisée. Et donc, il dit, je vais vous prendre pendant 4 jours, les 10 dirigeants que vous êtes, on sait que vous êtes assez engagés, et puis on va vous challenger. Donc, bien sûr, Cyril, la première chose qu'il a fait, c'est que pendant 2 heures, il nous a fait part du nouveau rapport du GIEC, qui est alarmant, hein, puisque le rapport du GIEC nous dit que le monde allait prendre plus de degrés en 2100. Maintenant, il a été corrigé. Maintenant, c'est plus 2100, c'est 2040. Donc, on a déjà pris un degré. Donc, c'est comme si le corps humain était plus à 37 degrés, mais à 38 degrés. Donc, on est déjà à un niveau de fièvre assez élevé. 2 degrés, c'est invivable pour 2/3 de l'hémisphère sud. Donc, Cyril nous a dit, je vais vous challenger différemment. Vous allez venir avec chacun un de vos enfants. Voilà, entre 10 et 18 ans. On ne va pas faire venir Greta, elle est sympathique, mais elle n'aura pas d'impact sur vous. Donc, vous prenez votre fils ou votre fille, qui va venir 24 heures en amont et qui va préparer avec nous le monde de demain. Et on pense que vous aurez beaucoup plus d'impact quand vous entendrez pendant 2 jours débattre avec votre propre enfant qui va vous dire, voilà, moi je veux ma ville de demain comme ça, je veux l'école de demain comme ça. Papa, en 2030, la Terre sera peut-être à 1,5 degré de plus ou 2 degrés, et moi j'aurai 30 ans et j'aurai mon premier enfant. Donc il nous a vraiment challengé par rapport à ça. Ça, c'est des moments qui nous touchent très fortement. Il est venu également avec 2 réfugiés, jeunes réfugiés du Congo, qui sont échappés du Congo, qui étaient fouettés tous les jours, qui étaient emprisonnés. Donc, il cherche à bouleverser les consciences. Et le gros sujet numéro 1 aujourd'hui, c'est bouleverser les consciences. Les entreprises ont un gros travail, c'est inévitable. Les gouvernements aussi. Mais nous, en tant que citoyens, on a un très gros travail. Le bilan carbone d'un Français, aujourd'hui, c'est 11 tonnes. On devrait être à 3 tonnes. On a 10 ans pour réagir. Mais passer de 11 tonnes à 3 tonnes, ça veut dire l'éradication de la 50% des véhicules en France. Ça voudrait dire que chacun d'entre nous, et nous sommes urbains, on change de téléphone, pas tous les ans, mais tous les 4 ans, et qu'on prenne un avion une fois tous les 3 ans. Bon, bah, encore beaucoup de boulot à toute échelle de l'entreprise.
Benoît.
Et du monde.
Et tout à fait. C'est très juste ce que vous dites. Sur le bilan carbone, il y a un rapport de Carbone 4 qui dit que les un comportement héroïque, avec un comportement héroïque, on peut faire à peu près 20%, 25% du travail. Tout le reste, c'est aux entreprises ou au gouvernement de le faire, changer la façon dont elles le proposent. Effectivement, il faut moins prendre l'avion. Comment se fait-il que des entreprises du secteur de l'aviation fassent encore des marketing très agressifs sur des vols très peu chers et proposent ça? C'est pas normal. Les entreprises, comme vous l'avez dit, il y a une question de conscience. Je pense qu'il y a une question de compréhension du problème aussi, de savoir où agir, comment agir. Et donc, si nous, dans le supérieur, on essaye de pousser cette question, je pense que dans les entreprises, c'est quelque chose de très important. Et donc, il faut former l'ensemble des salariés à la fois à la compréhension globale du problème et aussi appliquer au secteur de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Quelles formations sont mises en place? Combien de temps?
Oui, ben on essaye de, une fois de plus, là on est en train de bâtir la formation, donc peut-être l'année prochaine je vous montrerai concrètement ce qu'on est en train de faire, mais on bâtit actuellement une formation sur les 3 P. Profit, people et planète, pour montrer que rien n'est antagoniste et travailler un ensemble systémique. Parce qu'une formation sur le domaine du RSE, il y en a eu plein, mais il faut absolument que ça s'ancre dans les consciences du quotidien. Et c'est ça l'enjeu qu'on est en train de travailler chez Nexens. Mais c'est une équation très complexe. Tout le message que je fais passer auprès de nos équipes, c'est qu'on a, 10 ans pour bouger, le monde a 10 ans pour bouger. Nexens est en train de faire un virage sur la transition énergétique et sur les énergies renouvelables monstrueux, parce qu'on a la chance du grand développement. D'ailleurs, je suis désolé, il y a toujours un procès fait aux États-Unis. Mais actuellement, les États-Unis, vu par le prisme de Donald Trump, peut-être avec la sortie de la COP21, des accords de la COP21, peut être très critiqué. Mais les États américains, par exemple l'État de New York, est en train de bouger de manière massive dans les énergies renouvelables. Beaucoup plus vite que la France, beaucoup plus vite que l'Allemagne. On a plus de 9 gigawatts à installer en énergie éolienne dans les 4 ans à venir dans l'État de New York. On n'a jamais vu un tel engouement aux États-Unis. Et on n'en parle pas assez, mais il commence à se passer des choses. Il faut qu'on accélère à tout niveau.
Sur ces questions de formation, on peut peut-être justement faire le lien avec les initiatives qui ont été engagées dans les grandes écoles et universités. Donc je passe la parole à Chantal Monvoie.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, moi je suis directrice des partenariats d'AgroParisTech et déléguée générale de la Fondation AgroParisTech. Et à ce titre, je me sens vraiment bien à ma place pour prendre le relais de tout ce qui vient d'être dit et totalement en phase. Oui, il y a une immense vague mondiale et je crois que tout le monde l'a bien compris, tout a changé. Et depuis 3 ans, il se passe quelque chose entre les différentes sortes d'acteurs pour mettre en place des synergies et ne plus travailler chacun dans son couloir de nage, mais tous ensemble. À titre d'illustration, cette semaine, c'est la 3e fois qu'on me demande d'intervenir sur le rôle d'une grande école dans la transition et la façon dont on peut produire ensemble autrement des expertises, des talents. Moi, je suis très interpellée parce qu'il y a 3 ans que je suis revenue dans mon école d'origine. J'ai fait tout le début de ma carrière dans le monde économique, en entreprise, en ONG, en fondation d'entreprise. Et il était tout compte fait pas tant question que ça de tricoter ensemble des partenariats avec les écoles, sauf à dire qu'on recrutait les talents parce qu'on en avait besoin. Aujourd'hui, la prise de conscience est immense et nous, en tant qu'institut d'enseignement et de recherche, alors nous, on est encore un peu plus vieux, on a 200 ans d'existence, hein, on est vraiment au cœur de tous ces enjeux-là puisqu'on est sur les expertises qui concernent le développement et la protection de l'environnement, de la biodiversité, toutes les questions de l'alimentation pour tous et de la santé pour tous. Donc on se sent particulièrement concerné dans nos 3 rôles et les 3 rôles ils sont très complémentaires et en réponse à ce qui vient d'être dit, je pense. Le premier rôle que l'on a, c'est de faire de la recherche. Alors de la recherche appliquée, on cherche pour trouver plutôt que chercher pour chercher AgroParisTech. Et on le fait avec les partenaires, bien sûr, pour trouver des solutions, et produire des expertises, des données scientifiques dans la plus grande rigueur possible, dans la plus grande excellence académique dont on peut être capable, pour qu'il y ait un socle scientifique rigoureux, neutre et totalement objectif pour pouvoir construire des nouvelles façons de faire. Et notre rôle est de produire ces expertises les plus concrètes possibles pour lutter contre les fake news et faire en sorte que quand on débat sur quelque chose, c'est sur des données produites par la science. Et toutes les écoles d'enseignement supérieur et de recherche et tous les instituts de recherche sont conscients de cette question, produire de la donnée scientifique et pouvoir être un socle de débat neutre, sans objectif, sans enjeu ni politique ni économique. Notre deuxième rôle, c'est de former. Alors, on forme des talents, en effet. Alors, nous, en effet, la moyenne d'âge autour de nous, c'est plutôt 22 ans. On en a 2300 qui nous challengent tous les matins quand on arrive. On met 1000 jeunes sur le marché de l'emploi chaque année, que ce soit des ingénieurs, des masters, des doctorants, enfin des docteurs, et puis par le biais de la formation continue. Et ces jeunes-là, eh bien, on doit pouvoir leur permettre de développer dans tous les cursus et par petites touches et par grands modules, développer leur esprit critique et leur capacité de comprendre le rôle qu'ils vont jouer demain, au-delà de dire qu'ils ont besoin de pouvoir prendre les rênes de la planète, pouvoir agir, être manager dans ce monde complexe. Comment le faire? Et on sent vraiment que notre responsabilité est immense, nous, organismes de formation, pour que les jeunes arrivent avec cette capacité demain à être manager, surfer sur la complexité du vivant, et pouvoir demain être en entreprise, dans des services de l'État, dans des ONG, et pouvoir jouer pleinement leur rôle de manager. Et je suis d'accord qu'ils n'ont pas envie de manager pour avoir du pouvoir, ils ont envie de manager pour épanouir des gens autour d'eux, faire grandir des entreprises, produire de la valeur ajoutée au plus grand bénéfice du développement de la planète. Nous, nous avons le souhait, en tant qu'établissement académique, de développer des partenariats avec vous, parce que tout seul, on ne peut pas avancer, parce qu'on a un bout de la vérité de ce que l'on peut faire, mais c'est avec vous, entreprises, acteurs, PME, grands groupes, que nous pouvons, ensemble, faire que ces jeunes qui, demain, arrivent, auront tous les éléments, tous les ingrédients, tous les savoirs, et puis toute la conscience nécessaire pour jouer pleinement leur rôle. Alors, on le fait dans nos cursus, nos enseignants-chercheurs développent cette capacité du mieux que nous pouvons et on invente tous les jours. Ce n'est pas facile de savoir comment on développe la conscience des jeunes. On apprend avec eux, on apprend avec vous, on apprend chaque jour. Et on le fait dans nos cursus, on le fait aussi avec la Fondation AgroParisTech, qui est pour nous un outil au service du rayonnement de tout ce que l'on sait faire pour que chaque jeune comprenne qu'avec l'expertise qu'il apprend sur les bancs de l'école, il a aussi la capacité de faire ce petit plus, de développer sa propre RSE, prendre conscience du rôle qu'il peut jouer, réaliser son rêve, son projet, aussi petit soit-il, pour comprendre que tout compte fait, lui aussi, il ou elle peut faire bouger les lignes et prendre les rênes de la planète demain. Et cette fondation, elle est là pour qu'on puisse encourager chacun à avoir, oui, la tête experte, oui, les pieds sur terre, mais aussi le cœur chaud, et que quand il ou elle arrivera dans le monde du travail, eh bien, il sera pleinement actif pour développer la RSE dans l'entreprise, et ça nous paraît absolument important, et c'est avec vous qu'on pourra le faire. Et puis notre troisième rôle, si je peux me permettre, notre troisième rôle, qui est de plus en plus visible et assez rare, c'est d'être un think tank do tank où il fait bon venir débattre, échanger entre partenaires complémentaires pour pouvoir faire autrement, encore une fois dans des instances où il n'y a pas d'enjeu, juste essayer de trouver des solutions pour faire face à ces enjeux sur lesquels on est un peu tous perplexes et on a besoin d'ajouter les morceaux de puzzle que chacun peut apporter pour discuter ensemble. Et notre offre, nous, AgroParisTech, en tant qu'institution académique, c'est de développer des chaires partenariales qui sont des espaces de co-construction, de débats, de production d'expertise, de recherche, d'enseignement, où pendant plusieurs années, on construit ensemble pour atteindre une ambition qu'on ne sait pas atteindre tout seul, ni nous, ni vous. Et à titre d'exemple, on a lancé il y a 2 mois la chaire comptabilité écologique à l'UNESCO, avec LVMH qui apporte ses terrains d'expérimentation, avec la Caisse des dépôts et consignations biodiversité, avec l'Ordre des experts comptables, qui dit nous avons besoin d'un système comptable qui fait que demain l'homme et la nature compteront autant que le business model ou autre, de créer un système où on a des provisions pour rénovation de la nature au cas où on l'abîme, qu'on met en haut de bilan et non pas en bas de bilan, et que demain on puisse nous produire avec l'autorité des normes comptables des nouvelles façons de comptabiliser et de mesurer les petits pas que chacun fait pour récompenser et encourager. Et J'entendais tout à l'heure que quand on ouvre le placard, il y a des petits verres, des grands verres et des carafes. Eh bien oui, mais une fois qu'on a constaté ça, comment sait-on qu'est-ce qui est performant, le petit verre, le grand verre ou la carafe? Eh bien, notre souhait, c'est qu'à nous tous, nous puissions développer des systèmes qui permettent d'avoir des indicateurs rigoureux, scientifiques, qui permettent de vérifier que ça, c'est utile, ça, ça relève du gadget et on ne retient pas.
Très bien. Effectivement, je vous invite à aller voir les travaux d'Alexandre Rambeau, qui est le collègue d'AgroParisTech qui travaille sur le sujet, parce qu'il y a des initiatives vraiment intéressantes dans des domaines qu'on n'attend pas forcément, mais qui sont directement liés à ce qu'on a évoqué. Comme je vois le temps qui file, je voudrais vous remercier pour cette table ronde. Le thème, c'était un an plus tard. Vous avez vu qu'en à peine un an, il s'est quand même passé pas mal de choses. C'est intéressant de voir dans le monde universitaire, côté étudiant, côté institution, toutes les initiatives qui sont engagées. Moi, ça fait presque 15 ans que je travaille sur les questions d'ISR notamment, et je suis frappé de voir à quel point les choses sont en train de se cristalliser dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Donc, l'échange qu'on a eu entre étudiants, dirigeants d'entreprise et institutions illustre bien ça. Et donc, j'espère que dans une autre année plus tard, on aura encore plus de réalisations à partager. Mais en tout cas, donc, merci à tous les quatre pour cette table ronde.